Sirigandri Nemato
Bonjour et bienvenue dans 1000 paroles, une humanité, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui chaque jour font vivre la solidarité. Aujourd'hui, nous recevons M. René Lévy, responsable du restaurant du cœur de Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher 41, accompagné de Mme Catherine Tardieu, bénévole engagée au sein du centre. Ensemble, ils œuvrent au quotidien pour soutenir les personnes en situation de précarité, leur offrir une aide alimentaire indispensable, mais aussi une écoute, un sourire et une présence humaine qui font de la différence. À travers leurs témoignages, nous allons découvrir les coulisses de leur engagement, les motivations profondes qui les animent, les défis auxquels ils font face, les réalités du terrain, mais aussi les moments d'espoir, de solidarité, de gratitude qui donnent tout son sens à leurs actions. Cet épisode met en lumière la force collective des bénévoles, l'importance des initiatives locales et l'impact concret de ces gestes simples qui réunissent changement de vie. Installez-vous confortablement et laissons place à l'échange, à l'humanité et à la solidarité. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Qui est Rémi?
Alors, Rémi est un retraité qui est maintenant responsable du centre de Saint-Aignan depuis le mois d'octobre 2024. Quoi vous dire, les Restos du Cœur ont été créés il y a une quarantaine d'années par Coluche. Ils ne devaient pas rester aussi longtemps, mais malheureusement, la difficulté de la vie fait que ça perdure tous les ans.
Ok. Dites-moi, Rémi, au niveau de Saint-Aignan, comment se passe le travail avec vos bénévoles?
Alors, le travail avec les bénévoles se passe relativement bien. Nous sommes actuellement 27 bénévoles permanents ou ponctuels quand on a besoin. Et nous accueillons en ce moment, on en est à la 151e famille inscrite pour la campagne d'hiver 2025.
151
familles? 154
familles. 154 familles.
À la date d'aujourd'hui, oui.
Et la composition de ces familles?
Ça va de la famille d'une personne et à la famille jusqu'à 7 personnes.
D'accord. Quelle réalité sociale vous a le plus marqué depuis que vous travaillez au niveau des Restos du Cœur?
C'est le nombre croissant de demandes, parce que je ne pensais pas que tous les ans on en ferait autant. Et puis, malheureusement, la vie que les gens ont, le RSA, il y a beaucoup de RSA, des gens qui n'ont pas de travail, quelques retraités, puis quelques familles avec enfants, monoparentales, voilà. Donc c'est de plus en plus difficile pour eux.
Et pour l'impact humain de l'aide alimentaire, comment arrivez-vous à mesurer cet impact au-delà des chiffres?
Disons que c'est pas nous qui le fixons. Selon les revenus, ils ont le droit à telle ou telle chose. Mmh. Et puis, quand on peut donner tout ce qu'ils ont le droit, on leur donne. Par contre, il y a des fois, on est obligé de minorer un petit peu parce qu'on n'a pas assez de choses à leur donner.
D'accord. Monsieur Rémi, s'il vous plaît, est-ce qu'on parle échanger un peu le profil de bénéficiaires que vous avez, si ce n'est pas trop indiscret?
Actuellement, on a donc,
ces dernières années, quoi, pour ne pas...
On a de plus en plus de migrants. Beaucoup d'Afghans, il y a l'année dernière. Bon, et là, ça a un peu changé. Sinon, beaucoup de familles monoparentales, c'est-à-dire des femmes seules avec 1, 2, 3 enfants. Mmh. Et pas mal de gens du voyage qui se sont intégrés à Saint-Aignan.
D'accord.
Sinon, quelques retraités. Et puis, on a beaucoup de gens qui n'ont que le RSA. Principalement, je pense que c'est que les gens qui n'ont que le RSA.
Ok. Et le restaurant du cœur de Saint-Aignan, c'est uniquement les habitants de Saint-Aignan?
Non, il y a plusieurs communes. On a à peu près une douzaine de communes, je crois. Donc, le centre, c'est à Saint-Aignan, mais ça va jusqu'à Mareuil, donc sur la route de Montrichard, jusqu'à Sept-sur-Cher.
D'accord. Et si on parlait un peu de la solidarité et de l'engagement, donc qu'est-ce qui pousse autant de bénévoles à s'investir au niveau des restos du cœur, d'après vous?
Je pense qu'on est bénévole parce qu'on le fait en nous, quoi. On ne devient pas bénévole comme ça en se levant un matin. Moi, j'ai fait du bénévolat depuis l'âge de 18 ans, donc j'en ai 70, donc ça fait quelques années. Ouais. Et puis, je pense que c'est se rendre utile, surtout, si on a, nous, la chance d'avoir une retraite ou un salaire, puis on voit bien qu'autour de nous, c'est pas le cas, Beaucoup ont des difficultés. Quelqu'un qui a le RSA, par exemple, vivre avec 569 euros, c'est pas évident,
Bon, moi, je veux dire que j'ai eu la chance de connaître un peu le restaurant du cœur de Saint-Aignan. Je faisais en tant que bénévole, bien sûr. En fait, j'ai constaté qu'il y a moins de jeunes qui s'engagent dans le bénévolat. À quoi est-ce que vous
Tout
pensez, Sylvie?
simplement parce que les jeunes qui ne s'engagent pas sont actifs. Soit ils sont à l'école, ils travaillent. Quand on est ouvert le mercredi, que le mercredi c'est un jour de semaine, c'est vrai que moi, tant que j'ai pas très réellement travaillé, j'ai fait du bénévolat quand j'ai commencé à travailler. Mais je faisais ça le week-end, donc c'est pas pareil. Tant qu'à nous, le mercredi, ils n'ont pas le choix. Ceux qui travaillent ne peuvent pas venir. Mais par contre, ils nous aident pas mal pour les collectes du mois de mars, par exemple. On a beaucoup de gens extérieurs des bénévoles qui viennent nous aider.
D'accord. Et dites-moi, Rémi, comment vous recrutez-vous vos bénévoles qui donnent de leur temps, en fait, qui donnent leur énergie, leur
Ils
temps
viennent
là?
déjà se présenter, on voit un peu leur motivation, on leur donne une période, ce qu'on appelle de découverte. C'est-à-dire, actuellement, on en a deux qui font une période de découverte, donc ils font un peu tous les postes, voir si ça leur plaît ou pas. Et puis, bon, si ça leur plaît, on leur fait signer un engagement qui est annuel, enfin, tous les ans, on leur fait signer un engagement et puis on essaye de faire tourner, pas toujours dans le même poste, quoi. Bon. On a plusieurs postes, on a un poste accueil, un poste distribution, voilà.
Oui, qui parle de restaurant du cœur, parle de dignité, parle aussi de,
Beaucoup n'osent pas
voilà,
venir. Il y a
d'humanisme.
beaucoup de gens qui ne veulent pas venir.
Ouais.
Moi, j'ai inscrit, il y a 3 semaines, une dame qui pleurait parce qu'elle avait honte de venir.
Ouais, ça c'est
On
vrai.
aurait beau leur dire, n'ayez pas honte, vous y avez le
Ouais.
droit, bon, on choisit pas, hein.
Ouais. Personnellement, j'ai accueilli une personne, j'ai bon, dans la distribution, qui pleurait. Maintenant, d'après vous, quel rôle joue la dignité dans votre manière d'accompagner les bénéficiaires, d'après vous?
La première chose, c'est qu'on ne doit pas être dans le jugement. On n'a pas à juger les situations des gens. Quelqu'un qui est au RSA, généralement, ne l'a pas choisi. Donc, nous, on n'est pas là pour juger, on est là pour aider. Hein.
D'accord.
Donc, la dignité, c'est de ne pas être intrusif, pas leur demander trop de choses. S'ils veulent parler, on est là pour les écouter. S'ils veulent pas parler, on les sert et puis ils sont bons. Hein.
Mais au-delà de l'accompagnement que vous faites en dotation de kits alimentaires, est-ce qu'il y a d'autres aspects d'accompagnement que le
Oui,
Resto du
alors
Cœur?
pas au centre de Saint-Aignan, parce qu'on est une toute petite structure. Par contre, à Blois, il y a des services où ils peuvent les aider. Moi, j'ai déjà envoyé des gens pour qui n'avaient pas de médecin. Donc, la dame de Blois leur a trouvé un médecin. On a des gens qui veulent s'en sortir, qui veulent un petit microcrédit pour créer une petite entreprise. Donc, Blois peut les aider dans les démarches. Donc, il y a plusieurs petits services comme ça. Mais nous, si vous voulez, nous, on les envoie à Blois. Et là, j'en ai encore envoyé aujourd'hui. Il y a une dame qui voulait des cours de français. Bon, je sais que sur Saint-Aignan, il y a une association, mais comme je ne connaissais pas le nom, j'ai envoyé un mail à la personne responsable de Blois, qui avec les coordonnées de la personne, pour qu'elle la contacte, pour l'orienter sur une association pour bien lui faire apprendre le français.
D'accord. Rémi, là, on va partager un peu de musique pour reprendre l'émission.
In einem Bächlein hell, da schoss sie froh ein, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruh des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu, des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. So lang dem Wasser helle, so dacht ich nicht gebricht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. Doch endlich ward dem Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein tückisch trübe, und eh ich es gedacht, so zuckte seine Rute. Das Fischlein zappelt dran, und ich mit regem Blute sah die Betrogene an, und ich mit regem Blute sah die Betrogene an.
Merci une fois de plus, Monsieur Rémy. On est également avec Madame Catherine Tarieux, qui est une bénévole engagée du restaurant du cœur de Saint-Aignan, qui accompagne aujourd'hui Monsieur Rémy Rivière. Donc, Madame Catherine Tarieux, pouvez-vous vous présenter plus amplement et nous décrire un peu ce que vous faites en tant que bénévole du restaurant du cœur de Saint-Aignan, du centre de Saint-Aignan? Alors moi, en tant que bénévole, je vais au Resto du Cœur de Saint-Aignan le mardi. Il y a deux camions qui arrivent de Blois, un camion avec ce qu'on appelle les denrées sèches, non périssables, et après un autre camion avec un camion réfrigéré. Donc il s'agit de décharger les camions, de ranger tout ça pour préparer en fait la distribution du lendemain. Voilà.
D'accord. C'est la veille de la déception
C'est la
qu'on
veille
peut
de la
se...
distribution. Et alors, le jour de la distribution, on n'arrive pas très tard. On arrive vers 8h30. On finit de mettre en place ce qui doit être en place et on se prépare à recevoir les bénéficiaires qui, et le début de la distribution commence à 10h. On fait une coupure à peu près entre, on va dire, midi et quart et 13h30. Et après la distribution qui se termine en gros vers 15h, eh bien, il y a une petite séance de ménage. Voilà. Donc, ça fait une bonne journée le mercredi, en fait.
Oui, là, ça se voit qu'il n'y a pas que de la distribution, il y a beaucoup de travail à abattre derrière. Ça vient d'être. Donc, juste pour éclairer nos auditeurs, on aimerait bien connaître le fonctionnement interne d'un restaurant du cœur. Par exemple, comment s'organise une journée type dans le centre de Resto du cœur de Saint-Aignan?
Saint-Aignan.
Oui, une journée type, c'est quoi pour
Ben,
vous?
généralement, les premiers arrivent à 9h pour la mise en place. Et nous, on commence, on est ouvert aux bénéficiaires à partir de 10h. Donc, entre 9h et 10h, on met les tables, on prépare les denrées, on met les étalages, enfin tout ce qu'on doit préparer pour qu'à 10h, on soit opérationnel. Donc, et puis, il y a un accueil, donc la personne qui les reçoit. On a un coin café qui est très apprécié. Donc, et puis, donc, ça, les gens peuvent prendre un café, manger un petit morceau, enfin, voilà, des choses comme ça. Et sinon, la journée type, bah, c'est 9h, 10h préparation, 10h midi distribution, midi 1h déjeuner, 1h à 3h redistribution. Répartie sur toute la journée, nos familles.
Et par exemple, vos défis, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les défis logistiques quand on distribue des repas à grande échelle, comme par exemple quand il y a de grandes familles dans ce genre de
Bon, ben, par
circonstances?
contre, je n'appellerais pas ça un défi. Ce qu'on aimerait, c'est qu'ils puissent choisir plus de choses. Mais malheureusement, on a souvent les mêmes choses à leur donner. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, ah oui, bon, on a déjà eu ça. Ah oui, mais bon, nous, on donne ce qu'on a. Et on aimerait bien pouvoir diversifier même pour les grandes familles, parce qu'il y a qui ont des petits-enfants, des plus grands qui aiment et qui n'aiment pas. Et là, malheureusement, on peut pas, à chaque famille, on va pas lui faire un menu, quoi.
Il n'y a pas de choix, quoi.
Non, il y a pas assez, moi, à mon goût, il n'y a pas assez de choix. Et là, il y en a de moins en moins. Les choses sont de plus en plus rares. Hein.
Et là, le Resto du Cœur, l'adaptation du Resto du Cœur par rapport à la crise économique aujourd'hui qui sévit, comment est-ce que vous arriviez, le Resto du Cœur arrive à s'adapter face à la crise
Disons que le
économique?
souci, c'est que les Restos du Cœur sont obligés d'acheter maintenant. Avant, on avait beaucoup de dons. Et maintenant, les Restos du Cœur eux-mêmes sont obligés d'acheter pour pouvoir donner aux bénéficiaires. C'est plus des dons. Ben, on achète et on redonne, on redistribue. Et ça, normalement, ça a un coût. Donc, c'est pour ça que les Restos du Cœur achètent ce qu'ils peuvent au coût qu'ils peuvent, quoi.
Donc, si je comprends bien, actuellement, avec la crise économique, ce sont des associations comme les Restos du Cœur qui en pâtissent le plus.
Oh oui, je pense. Il
Ouais.
y a beaucoup moins de dons. Il n'y a pas que nous. Hein. Le Secours populaire, tout ça, on a beaucoup moins de dons.
D'accord. Et si on parlait un peu de la dimension humaine, pouvez-vous nous raconter une rencontre qui résume l'esprit du Resto du Cœur dans votre carrière, votre parcours, ce que vous avez vécu à Saint-Aignan? Est-ce qu'il y a une histoire que vous avez rencontrée, vous, qui résume un peu l'esprit du Resto du Cœur? Vous, par rapport aux bénéficiaires, est-ce que vous avez un exemple que vous pouvez nous raconter qui incarne carrément l'esprit du Resto du Cœur?
Ben, c'est justement essayer de convaincre les gens que ben, ce qu'on leur donne, c'est qu'on ben, c'est ça nous fait plaisir, on va dire. Parce que bon, comme je disais tout à l'heure, des gens qui pleurent et qui n'osent pas venir, on leur dit si, il faut mettre ça de côté. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ça. Moi, l'esprit, c'est que les gens, il faut pas qu'ils hésitent à venir. Et nous, ben, on n'hésite pas à donner.
Et vous, en tant que responsable du centre, vous êtes tenu d'enregistrer les nouveaux arrivants. Est-ce qu'il y a souvent parmi ces personnes-là qui fait des témoignages par rapport à sa situation avant un Resto du Cœur? Ou une personne que vous avez accompagnée au niveau du Resto du Cœur, et à un moment donné, la personne arrive à avoir une situation meilleure, doit quitter le Resto du Cœur. Est-ce que vous avez eu des retours, en fait, par rapport
J'en ai
à...
eu pour la campagne d'été 2025. J'ai une famille qui venait d'Argentine, donc c'est pas à côté. Ils étaient quatre, donc on les a aidés toute la période de l'été 2025. Et monsieur m'a téléphoné au mois d'octobre me disant que maintenant leur papier était régularisé, donc ils n'avaient plus besoin de nous. Donc je lui ai dit, mais vous êtes sûr? Il me dit, oui, on n'a plus besoin de vous. Bon, je lui ai dit, par contre, vous restez inscrit quand même. hein, parce qu'on a le fichier des gens d'une année sur l'autre qui sont toujours inscrits, et il lui dit, bah, si un jour votre situation malheureusement redégringole, bah, vous revenez. Hein.
Oui, je comprends.
Il bon, y a beaucoup comme ça, hein, mais moi ce que je pense, c'est que ce qui est dommage, c'est toujours les mêmes qui reviennent, on se demande si ça devient une habitude. Mmh. Alors qu'il y a quand même, il y a des gens, on a vu des gens qu'on voit plus, qui nous ont appelés, oui, on a trouvé du travail, mais c'est minime. Hein.
C'est minime, oui. Ouais. Mmh. Et qui dit activité de bénévolat, qui dit association, qui dit humanisme, va parler sans doute des émotions, va parler de la précarité. Donc, vous, face à ces personnes qui viennent récupérer des colis, comment émotionnellement vous arrivez à faire face à ça?
C'est pas tout le temps facile, hein, on est obligé un peu de prendre sur soi, mais je pense qu'on s'est un tout petit peu blindé. On s'est dit, bon, de toute façon, ce qu'on leur donne, c'est qu'ils ont besoin. Bon, peut-être qu'il y en a qui ont moins besoin, mais qui profitent du système, mais ça, on peut pas être derrière tout le monde. Et puis, mais émotionnellement, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais bon, bah, on prend sur nous. Hein.
Et surtout, eux aussi, sans doute qu'ils vous donnent un peu de force, qui vous permet de continuer.
Oui. Et puis, ils nous remercient. Il y a plein qui nous remercient, même si on leur donne moins, parce qu'on a moins à donner, ils sont quand même contents. Donc, le fait de les voir contents, on est contents.
Et parallèlement, sans doute, j'imagine qu'il y a des personnes qui sont tout le temps difficiles aussi à satisfaire.
Il y a des gens qui râlent,
ouais.
Et qui ne sont pas faciles à servir, on va dire.
Oui. Surtout aussi, ils ne connaissent pas l'histoire des bénévoles, que ces bénévoles-là s'engagent, donnent leur temps, leur énergie.
Je pense que la plupart, ce n'est pas leur problème. Ils savent qu'ils ont droit. Bon, malgré qu'on leur dise que ce n'est pas un droit, que c'est une aide, ils savent qu'on est là. Et puis pour eux, c'est presque normal.
De recevoir.
De recevoir. Alors que bon, nous, on préférerait que les gens travaillent et puis pas leur donner, mais bon.
Madame Tardieu, pouvez-vous revenir un peu sur votre vision, vous? Comment voyez-vous le reste du cœur?
Ben, écoutez, moi, j'ai travaillé dans le social avant et je m'étais dit, à la retraite, je ferais peut-être autre chose, du coup, dans les associations. Et puis, au moment du Covid, j'ai entendu à la radio que les Restos du Cœur cherchaient du monde. Donc, je me suis dit, bon, allez, on y va. Et puis, en fait, le Covid est passé et je suis restée. Donc, ça veut dire que moi, j'aime en fait le contact avec les gens, avec toutes sortes de personnes. Et en fait, ce qui m'intéresse au Resto du Cœur, c'est que c'est pas un entre-soi. On peut rencontrer toutes sortes de personnes, de tout. Alors, je parle là, bénéficiaires et bénévoles compris. On peut rencontrer des personnes... de toute, j'ai envie de dire, pensée politique, même si on parle pas politique, on devine quand même un petit peu les choses, de toute pensée politique, on peut rencontrer des gens qui ont des cultures très différentes, qui ont des parcours très différents. Et ça, c'est quand même bien, parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, les gens, ils sont plutôt dans un entre-soi et que ça fait pas toujours avancer les choses d'être toujours avec des gens qui pensent comme soi. Donc là, eh bien, ma foi, les Restos du Cœur, en fait, c'est la seule association où je trouve que c'est aussi diversifié dans tout ce que j'ai dit, et ça fonctionne. Voilà, c'est important de le dire, et ça fonctionne.
Ouais. Oui, c'est beaucoup de choses. Il y a le respect, l'écoute, la dignité, beaucoup de choses d'après ce que vous venez d'expliquer. Rémi, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le responsable du Resto du Cœur de Saint-Aignan qui se trouve dans le Loir-et-Cher 41. Si on parlait un peu des enjeux sociaux, donc là, pensez-vous qu'un jour, des Restos du Cœur n'auront plus besoin d'exister? Si oui, pourquoi?
On aimerait bien, mais vu la situation économique, je ne pense pas que ça s'arrête d'ici quelques années.
Donc, d'après vous, les Restos du Cœur existeront toujours?
Je pense, malheureusement. C'est malheureusement pour les gens. S'ils viennent chez nous, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, s'ils ne venaient pas, c'est qu'ils auraient une situation.
Je veux juste rebondir sur ce que vous avez dit. Si vous aviez la chance de changer quelque chose dans la politique de lutte contre la précarité en France ou n'importe où ailleurs dans le monde, ce serait quoi?
La première chose, c'est de donner du travail à tout le monde. Et deuxièmement, c'est essayer de convaincre ceux qui sont plus réfractaires à aller travailler parce qu'ils ont pris l'habitude essayer de trouver quelque chose. Mais bon, il faut dire aussi que ça dépend du lieu géographique. Parce qu'on sait très bien que dans le Loir-et-Cher, il faut pouvoir se déplacer, il faut un véhicule, tout le monde n'a pas de véhicule. Pas facile, quoi.
D'accord. Là aussi, ça pose problème parce que personnellement, j'ai eu à connaître un peu le restaurant du Cœur de Saint-Aignan. J'ai vu que la plupart des bénévoles n'habitent pas dans Saint-Aignan. Et ça aussi, c'est de l'investissement humain qu'ils sont en train de faire aussi à leur niveau. D'accord. Mais est-ce qu'au niveau des bénéficiaires, il ne vous arrive pas souvent de vous dire que souvent il faut les sensibiliser qu'eux aussi, il doit avoir un apport, pas seulement venir récupérer les colis avec des temps difficiles, avec eux. Que ça ne vous arrive pas de vous dire que au fond, il faut peut-être les sensibiliser sur comment parler à ces bénévoles. Est-ce que ça ne vous a pas traversé l'idée de faire même des séances de sensibilisation aux bénéficiaires sur comment s'exprimer devant les bénévoles qui sont...
Oui, on a eu le cas de plusieurs fois de bénéficiaires qui se comportaient pas bien avec les bénévoles. On a d'ailleurs une famille qui a été exclue parce qu'ils avaient vraiment été trop loin. Oui, c'est vrai que je pense que beaucoup de bénéficiaires, grosse majorité, ils sont tout à fait corrects. On n'a pas à se plaindre. On en a quelques-uns où c'est un peu plus difficile. Et ça, on a beau leur dire, on a même fait une petite affiche, nous sommes bénévoles, on a droit au respect, enfin des choses comme ça. Et puis, voilà, quoi. Il faudrait que... Mais c'est pas une grosse majorité. Honnêtement, moi, sur Saint-Aignan, je pense pas qu'il y ait une majorité de bénéficiaires qui ne soient pas corrects.
Okay. Les bénévoles qui sont dans les Restos du Cœur sont formés au préalable avant de commencer?
Non.
Il n'y a pas de formation?
Non.
Et est-ce que derrière, il y a un accompagnement psychologique qui est proposé pour les bénévoles?
Pas à ma connaissance.
Il n'y a pas d'accompagnement psychologique. Et pour les accompagnements type que proposent les Restos du Cœur, est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique pour les bénéficiaires au cas où vous croisez des bénéficiaires qui en ont besoin?
Je ne sais pas si au niveau de Blois, il y a une cellule qui est prévue pour ce genre de choses.
Madame Tardieu, vous pouvez nous donner juste un exemple d'un moment ou rencontre que vous avez eue qui vous touche particulièrement au niveau du Resto du Cœur, quelque chose qui vous a marqué?
En fait, c'est quand les gens nous disent, en fait, vous êtes notre petit sourire de la semaine. Quand on se rend compte que leur seule sortie, c'est la sortie au Resto du Cœur et que du coup, c'est quand même pas rien de les accueillir convenablement. Quelquefois, on aimerait leur donner un petit peu plus parce qu'on se rend bien compte que ce qu'on donne, ça va pas faire le tour de la question pour une semaine. Mais enfin, c'est déjà ça. Et voilà.
Si vous aviez le pouvoir aujourd'hui, Madame Tardieu, on donne le pouvoir de changer ou d'améliorer quelque chose dans un Resto du Cœur, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous changer ou améliorer?
Alors, si j'avais une baguette magique, en fait...
Ouais.
Peut-être qu'il y ait plus de choix, parce qu'on est quand même assez tributaire, enfin on est même complètement tributaire de ce qu'on reçoit. Et du coup, quelquefois, on se retrouve un petit peu embêté parce que même les produits de nécessité première, on les a pas sur le moment. Alors on sait qu'on va les avoir à un moment donné, mais pas toujours. Par exemple, je pense à du beurre, de la crème fraîche, on n'en a quasiment jamais. De l'huile, on peut pas en donner tout le temps. De la farine non plus, du sucre non plus, du café non plus. Donc voilà, c'est ça mon regret en fait.
Et vous, en tant que bénévole, vous vous êtes confronté à tout ça à chaque mercredi, vous voyez cela. Psychologiquement, comment vous vous sentez en fait?
Bien sûr, j'aimerais qu'il y ait des gens qui trouvent du travail et qu'on ne les voit plus. Non pas pour ne plus les voir, mais parce qu'ils auraient plus besoin de nous. Et il y a des gens qui viennent des années et des années et je me dis qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors je sais pas à quel stade de la prise en charge, mais qui doit aller bien au-delà de ce que les restos du cœur font. Mais il y a quelque chose qui fonctionne pas quand ça dure sur vraiment beaucoup d'années. Oui. Voilà, donc ça, tout ça, ce sera à travailler, mais de manière pluridisciplinaire, avec des travailleurs sociaux, avec, la CAF, avec, voilà.
Honnêtement, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne sais pas.
D'accord. Chers auditeurs, on va écouter ensemble le témoignage d'une bénéficiaire du Resto du Cœur de Saint-Aignan qui a bien voulu donner son point de vue dans l'anonymat. Bonjour, Madame J.
Bonjour. Je suis une femme de plus de 50 ans. Je dois avouer que je me sens souvent très seule. Je vois ma famille peut-être une ou deux fois dans l'année. Alors, les jours se ressemblent un peu trop. Venir chaque mercredi au Resto du Cœur de Saint-Aignan, c'est devenu pour moi un vrai rendez-vous important, bien sûr. Le colis alimentaire m'aide beaucoup quand le budget ne suffit plus. Mais ce que je viens chercher surtout, c'est la présence humaine. Ici, on m'accueille avec un sourire, une petite attention, un café partagé. On prend le temps de me parler, de m'écouter sans jugement. Rien que ça, ça change tout. Ces moments me rappellent que je ne suis pas invisible, que je fais encore partie du monde grâce aux bénévoles. Je repars chaque semaine un peu moins seule et un peu plus forte. Pour moi, les Restos du Cœur, c'est plus qu'une aide. C'est un souffle, un lien, une chaleur qui fait du bien.
Merci, Madame G, pour ce témoignage. Je rappelle à nos auditeurs qu'on est toujours avec M. Rémi Rivier, qui est responsable du Resto du Cœur de Saint-Aignan. Et dites-moi, les dotations pour les Restos du Cœur, comment ça se passe? Est-ce que les gens, vous avez assez de donateurs? Est-ce que vous recevez assez de fonds de la part peut-être de l'État ou d'autres organismes?
Les Restos du Cœur marchent en priorité avec des dons, des collectes nationales, des apports par la Banque alimentaire, des produits européens.
D'accord.
Voilà. Des gros donateurs, oui, je sais qu'il y en a eu à une époque, on avait un gros entrepreneur qui avait fait un gros chèque, quoi. Mais c'est pas la majorité. Je pense que la majorité, c'est surtout les petits donateurs qui font boule de neige et ça permet justement d'acheter maintenant les denrées qui avant n'étaient pas payantes, qui sont devenues payantes, quoi.
D'accord. Donc là, en résumé, d'abord, les bénéficiaires doivent comprendre que les bénévoles qui sont là donnent de leur temps, de leurs énergies pour leur satisfaire, ouais.
Gratuitement.
Voilà. Bénévolement pour leur satisfaire et leur permettre aussi de subvenir un peu aux besoins de leur famille, qu'ils soient moins désagréables prochainement.
Il y en a. Oui, honnêtement, c'est pas une majorité de désagréables.
D'accord. Rémi, s'il vous plaît, quelle vision avez-vous du Resto du Cœur?
La vision que j'ai, c'est qu'on, heureusement qu'on est là. Je ne sais pas comment la plupart feraient. Et puis, voilà, une vision d'aide et d'humanisme. Oui.
Quel message aimeriez-vous que les auditeurs retiennent après cet épisode?
Aidez-nous.
Aidez-nous.
Soit par des dons, du temps, en devenant bénévole, ou des dons réguliers au Resto du Cœur. C'est... De toute façon, je pense malheureusement, l'argent, c'est la manière de la guerre, comme on dit. Hein. Sans argent, on peut pas faire grand-chose. Et sans bénévoles, on peut pas faire grand-chose non plus, parce que il faut bien distribuer, accompagner, des choses comme ça.
Quelqu'un qui pense à l'aide sociale ne sert qu'à assister. Si on vous dit ça, que répondriez-vous à ça?
Personnellement, quelqu'un qui malheureusement bénéficie de l'aide sociale, c'est qu'il peut pas faire autrement. Donc, bon, je sais que beaucoup de gens pensent que les gens aiment bien être assistés, ne veulent pas faire d'efforts. Enfin, moi, ce n'est pas ma conception, honnêtement. Je ne vois pas ça comme ça. Moi, j'ai toujours fait du bénévolat, mais bon, pas forcément Restos du Cœur. Hein. J'ai milité dans des associations d'handicapés ou des choses comme ça. Bon, c'était pas, on n'apportait pas d'argent, on n'apportait pas de nourriture, mais on apportait du temps.
Quel message transmettez-vous tant aux bénéficiaires mais aussi aux bénévoles?
Eh ben le message aux bénéficiaires, c'est que aux autres bénéficiaires de Saint-Aignan, c'est que moi, en fait, j'y trouve mon compte à être dans ce centre de Saint-Aignan pour les raisons que j'ai énoncées et que pour le moment, j'ai envie de continuer. C'est assez physique et à un moment donné, je sais pas si je pourrais continuer. Pour le moment, bon, ça va. Et puis aux bénévoles, et ben, aux bénéficiaires, pardon, j'ai envie de leur dire que j'espère qu'ils sont satisfaits et que tout prennent quand même un certain plaisir à venir nous voir et j'espère aussi que ça les dépanne. Pour certains, j'en suis sûre parce qu'ils le disent. Après, tout le monde ne le dit pas, mais bon, s'ils le pensent, c'est bien. Voilà.
Et auriez-vous un message à adresser aux potentiels donateurs?
Ah ben, les potentiels donateurs, oui, bien sûr. Ben écoutez, moi, je les remercie. Après, je sais que ça peut être défalqué pour une partie des impôts, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à donner. Et que cet argent, je crois qu'il est vraiment bien utilisé, et pas seulement à Saint-Aignan. Les Restos du Cœur, c'est une très très grosse association. Je me demande si c'est pas la plus grosse association de France. Et moi, j'ai confiance en cette association. J'espère qu'il n'y aura pas de problème un jour, parce qu'il y a des associations dans lesquelles on avait confiance et puis on s'est rendu compte que ça pouvait être compliqué. Là, j'espère que pour les Restos du Cœur, il n'y aura jamais ça.
Si on parlait un peu de l'excédent des produits qui ne viennent pas du centre de Blois, par exemple, qui viennent dans d'autres supermarchés, qui vous les met à disposition pour les bénéficiaires. Souvent, ils vous donnent des choses qui sont presque pas utilisables. Mmh. Quel message pouvez-vous dire à ces structures, par exemple, s'il y a un responsable de structure qui nous écoute, bien sûr.
Ce qui est regrettable, c'est que oui, je pense qu'on reçoit de temps en temps même des choses qui ne sont pas distribuables. Ça, c'est sûr. Bah, l'idéal serait qu'on ait des choses non périmées ou à date courte, comme ils font maintenant, et qu'on puisse les distribuer.
Et bientôt aussi, c'est la fin d'année. Le Père Noël doit frapper aux portes.
Oui, bah, s'il veut venir, oui. Il nous apporte ce qu'il veut, oui. On reçoit tout ce qu'il veut, le Père Noël, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est vrai que la situation est dure, et bon, là, pour Noël, c'est vrai que les gens, bon, ça va être un peu galère, quoi. Mais nous, on fait ce qu'on peut, là. On check à Saint-Aignan, on n'a pas fermé de l'année, on essaie d'ouvrir toute l'année, donc.
Donc, en tout cas, merci Rémi.
Non.
D'accord.
Voilà,
c'est tout. C'est l'investissement humain.
Voilà, tout à fait.
Qu'est-ce qui vous motive à continuer chaque jour, malgré les difficultés?
Ben, toujours la même idée, savoir qu'on n'est pas inutile et ben, tant qu'on a besoin, ben, on est là.
Avez-vous un projet pour améliorer ou un rêve? Non, le centre de Saint-Aignan, je précise bien.
Le centre de Saint-Aignan, oui. Ce serait que tout le monde puisse travailler, qu'on n'ait plus besoin de nous et qu'on n'existe plus.
Donc,
ce serait l'idéal. Qu'on ait plus de choses à distribuer, parce que bon, c'est vrai que ça se diminue. Et puis, bah, je sais pas, peut-être des nouveaux locaux mieux adaptés, un accueil où plus de gens, parce que bon, c'est quand même un peu vieillot, donc un accueil où les gens se sentiraient bien.
Il y a des personnes qui hésitent à franchir la porte pour venir au Resto du Cœur. Quel message les adresseriez-vous?
Ben, faut pas hésiter, faut pas avoir honte. Tout le monde n'est pas, personne n'est à l'abri d'un accident de la vie. Si on a besoin, faut venir, on est là pour ça et il faut pas hésiter.
Et pour les bénévoles?
Ben, que les gens peuvent, s'ils ont ne serait-ce que quelques heures à nous accorder, ben, de venir augmenter le rang des bénévoles.
Donc, un dernier message que tu voudrais adresser à nos auditeurs avant qu'on se quitte?
Ben, écoutez, si vous avez du temps de libre, hein, on recrute. Donc. On est toujours à la recherche de personnes. Et puis voilà, chacun, même la plus petite chose qu'on puisse faire, peut aider.
En tout cas, merci Madame Tardieu. Merci aussi Monsieur Rivier pour le temps que vous m'avez accordé. Merci également à nos auditeurs qui sont scotchés, qui nous écoutent à travers la radio de ZEF. Ainsi s'achève cet épisode de 1000 paroles, une humanité consacrée au Resto du Cœur de Saint-Aignan. Un immense merci à Monsieur Rémi Rivier et Madame Catherine Tardieu pour leur sincérité, leur engagement et le regard profondément humain qu'ils portent sur leur mission. À travers leurs mots, Nous avons entrevu la réalité d'un quotidien fait de solidarité, d'écoute, de défis, mais aussi de moments de joie et de rencontres qui donnent sens à l'entraide. Le témoignage nous rappelle que derrière chaque distribution, chaque geste, chaque sourire, il y a des femmes et des hommes qui œuvrent pour que personne ne reste de côté. Juste pour rappeler que les Restos du Cœur sont bien plus qu'un lieu d'aide. Ils sont un espace de dignité, de chaleur et de lien social. Puis cet épisode inspire chacun d'entre nous à se mobiliser, à tendre la main ou à s'engager à son échelle pour construire une société plus juste, plus solidaire. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec celles et ceux qui font battre le cœur de l'humanité. Merci Radio Zef, merci une fois de plus à mes invités. À la prochaine.